Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme. Ouais, mon petit bonhomme, bravo.
Voilà, 10h03, hein, bienvenue donc pour cette nouvelle émission de Tribune Foot. On va avoir beaucoup d'invités ce matin au téléphone. On retrouvera donc vers 10h40 notre ami Hippolyte Dangbeto qui nous fera un petit peu le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. C'est aujourd'hui la finale entre l'Égypte et le Cameroun à partir de 18h. Et puis je suis content d'avoir ce matin comme invité dans Tribune Foot celui qui nous a fait pendant de très nombreuses années patienter très tard ou très tôt, hein, ça dépendait. Donc le samedi soir, c'est Monsieur Pierre Cangioni. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Merci en tout cas de nous accorder un peu de votre temps. Hein.
Non, c'est un plaisir pour moi.
Hein. Alors, cette aventure de téléfoot, c'est arrivé comment ?
Ah ben, elle est arrivée de façon relativement simple, mais qui s'est compliquée par la suite, parce que quand on raconte ses souvenirs, je crois que chacun apporte sa pincée de sel et chacun croit avoir participé. En réalité, c'est tout simple et tout bête. C'est Christian Kidet, qui était le chef adjoint du service des sports à l'époque, qui est revenu d'une réunion de l'Eurovision, dont il était vice-président et qui m'a dit, voilà, en Italie et en Allemagne, il y a deux émissions qui sont uniquement consacrées au football. Ce qui, chez nous, était impensable parce que nous étions encore dans la théorie du tout sport. Il fallait qu'une émission, dans une émission, il y ait tous les sports. Et là, nous avons commencé à plaider, à monter une sorte de canevas, à essayer de voir la direction. Enfin, bon, je vais passer sur tout le cheminement qui est toujours très difficile dans ces cas-là. C'est une sorte de parcours du combattant. Et à la fin, Jean-Louis Guillot, qui était un président avisé, sans être tout à fait convaincu quand même, mais le reste de la maison ne l'était pas du tout, a dit « Bon, ben d'accord, on va tenter le coup sur un an, troisième partie de soirée, c'est-à-dire à 10h30, 11h. » Bon, c'était une sorte à la fois de main tendue et de sacrifice pour savoir ce que ça pouvait donner. Et on sait ce que ça a donné puisque ça existe encore aujourd'hui.
Oui, c'est aujourd'hui une des émissions cultes, hein, Pierre.
Oui, sauf que, sans faire de réserve aucune, pour moi, le téléfoot que j'ai créé et que j'ai animé et qui avait lieu le samedi soir, s'est arrêté pour moi en 81, mais pas pour moi. Je pense qu'il s'est arrêté pour un tas de gens le samedi soir, parce que de l'avoir mis le dimanche matin, c'est un autre jour, un autre horaire, ce n'est pas à chaud, c'est une formule tout à fait différente.
Oui, ben on y reviendra. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, parmi donc la direction de TF1, peu de personnes pensaient que cette émission allait durer aussi longtemps.
Non seulement il ne pensait pas qu'elle devait durer, ensuite on me reprochait qu'elle était trop chère alors que le budget par rapport à ceux de l'Allemagne et d'Italie était tout à fait dérisoire. Un chef de production d'ailleurs que je rencontrais, un directeur de production que je rencontrais directement dans l'ascenseur me disait chaque fois que à la fois c'était trop cher et que c'était inutile. Et c'était une sorte comme de verrue comme ça dans les programmes. D'ailleurs tout le monde débordait allègrement. Michel Drucker débordait facile de 20 minutes pour ne pas dire d'une demi-heure. Colombo n'en finissait pas de résoudre ses énigmes, et on se retrouvait avec des millions de jeunes qui regardaient. Sauf qu'à l'époque, on ne sondait pas les jeunes, on n'avait pas le droit de les sonder, et la direction n'avait aucune idée du courrier que je recevais, des coups de téléphone que je recevais. C'était des millions de jeunes qui me le disent aujourd'hui d'ailleurs, qui aujourd'hui ont 35 ans, comme Zinedine Zidane qui dit que c'était les premières images qu'il a vues du football, ainsi de suite, alors qu'il n'a que 34 ans. Et c'était une sorte d'émission culte pour les jeunes qui aujourd'hui en ont conscience, mais à l'époque, personne ne le savait parce qu'on estimait que ce n'était pas une nécessité.
Oui, comme l'histoire des bougies. Hein.
Hein? Oui, bah, les bougies, c'est parce qu'un soir, bon, c'est vrai que j'en avais un peu marre d'être chaque fois retardé de 15, 20 minutes. Et moi j'avais en mémoire ces jeunes à qui les parents faisaient la guerre et qui, des fois, ne les laissaient pas veiller. Et un soir, on s'est retrouvés à 11h, à minuit moins le quart ou un truc comme ça. Et j'ai fait éteindre le studio. Et c'est vrai, j'ai fait mettre des bougies. Et j'ai dit bonjour aux gens et leur dire bonsoir, parce que nous étions proches de minuit. Et ça m'a valu un carton jaune. Je crois que j'étais le seul présentateur de télévision ou journaliste à avoir reçu un avertissement officiel à l'antenne. Quoi.
Alors, c'est une émission qui est arrivée à une époque où le football français a amorcé un être nouveau. On était sur la fin de l'épopée des Verts. On allait entrer avec Bastia et puis l'équipe de France.
Oui, tout à fait. Oui, nous arrivions à la fin d'une période vache maigre. Et là, je comprends très bien que les dirigeants de télé n'était pas sous pression et pour cause, puisque l'équipe de France était traitée à coups de colibet, on n'était plus nulle part finalement. Lorsque en Coupe d'Europe, un club français rencontrait un club allemand, on savait qu'il avait perdu d'office, ainsi de suite. Et puis est arrivée l'épopée des Verts, qui a redonné un peu de couleur au football français, peint en vert d'ailleurs. Ensuite arrive effectivement une équipe de France qui commence à se structurer, qui commence à avoir enfin des résultats, avec un jeu beaucoup plus chatoyant, avec donc il y avait une adhésion du public qui commençait. Bastia arrive sur ses entrefaites et parachève un peu l'œuvre de Saint-Étienne. Et à ce moment-là, le moment est sans doute favorable aussi pour proposer ça aux dirigeants de télé qui étaient très éloignés des choses du football.
Et pour vous, l'épopée de Bastia, ça a dû être difficile parce qu'il fallait avant tout, Pierre, rester journaliste.
Alors, moi, c'était mon grand souci d'ailleurs et ça m'a valu. Moi, je n'ai jamais eu de problème dans les stades, nulle part. J'ai eu cette chance de passer à travers, lire des supporters qui se plaignaient toujours des gens de télé, des commentateurs et autres. Certains de mes confrères ont eu des avanies. Mais la seule fois où j'ai eu un petit problème, c'était à Bastia. Pour la bonne raison que, d'abord je suis ajaxien, mais enfin ça c'est pas grave, mais pour la bonne raison que j'avais un souci, moi, de dignité, c'est-à-dire que je ne pouvais pas commenter en supporter bastiais, ou en supporter corse, au contraire, donc je prenais un recul, d'ailleurs qui m'est naturel d'ailleurs, je n'ai jamais été un supporter en football, j'ai toujours été plutôt un analyste, même très jeune. Donc il m'a été reproché, mais amicalement, et puis c'était pas grave en soi, mais en disant, oui, certains commentateurs de la radio sont plus enthousiastes que toi. Je dis oui, mais moi je n'ai pas manifesté d'enthousiasme et surtout je n'ai pas inventé un match qui n'existe pas. Quand il joue mal, il faut dire qu'il joue mal aussi, ainsi de suite. Alors effectivement, et je pense que ma dignité dans ces cas-là n'a pas été toujours comprise, mais on ne peut pas être toujours compris.
Alors vous commentiez les matchs avec Jean Rénal, Georges Dominique parfois ou Didier Roustan. Vous avez encore des contacts avec eux?
Alors j'ai des contacts avec Didier Roustan, que j'ai souvent au téléphone, avec qui je déjeune de temps à autre parce qu'il est sur Paris. Jean Rénal est quelque part en Bretagne, donc il a quitté Paris il y a très longtemps. Et je n'ai pas revu Georges Dominique depuis quelques années. Mais par contre, avant-hier, j'ai fait un déjeuner avec tous mes anciens journalistes de La 5, par exemple.
Ah oui, on en parlera hein, de cette aventure de La 5 aussi. Alors justement, parlons un peu de l'évolution de Téléfoot. C'est une émission qui a naturellement considérablement changé, évolué. Elle a été le vendredi soir, elle a été le samedi après-midi. Elle a même été le dimanche en fin d'après-midi en concurrence avec Stade 2. Et puis des formules complètement différentes aussi, Pierre.
Alors, les formules différentes, maintenant qu'elles n'ont plus lieu, je peux en parler. Moi, quand j'ai été invité sur le plateau pour les 25 ans de Téléfoot, oui. Les journalistes, conscients peut-être de leur propre turpitude, m'ont dit surtout ne nous faites pas de critiques en rigolant. J'ai dit non, je ne suis pas là pour vous critiquer si vous m'invitez. Mais il est certain que de voir quatre présentateurs en train de glousser en plateau, d'occuper du temps qui aurait dû être du temps image. Pour moi, la télévision, c'est des images. D'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, je ne regarde jamais une émission de football qui parle de football. Je regarde une émission de football qui montre du football. Moi, les émissions avant et après match, où les gens font des numéros personnels, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux dire que moi, je réduisais les plateaux à leur plus simple expression, parce que sur une heure, je voulais 56 à 57 minutes d'image. Mmh. Bon. Et effectivement, quand j'ai calculé un jour comme ça pour m'amuser que sur une heure, il n'en était plus qu'à 35 minutes d'image, je trouve que quand même, c'est un détournement de la télévision. Parce que quatre présentateurs, ça sert à quoi? Rien du tout. Sauf à faire de mauvaises plaisanteries, à glousser entre soi, donc à exclure le téléspectateur pratiquement, ainsi de suite. Ils en sont revenus au bout de 20 ans ou plus à une formule qui me paraît beaucoup plus évidente. Thierry Gélardi est un bon journaliste, un bon présentateur. On a davantage d'images, bon, qu'il y ait de temps en temps un invité ou qu'il y ait de temps en temps un journaliste qui vienne faire un plateau. Je ne suis pas contre. Et j'avais moi-même des invités, d'ailleurs, très régulièrement. Mais je suis pour cette formule. Mais il me semble qu'aujourd'hui, le successeur de Téléfoot, c'est pas Téléfoot. Le successeur de Téléfoot, c'est Canal qui a pris la succession. Puisqu'à mon époque, les gens n'écoutaient même plus la radio parce qu'ils voulaient vivre en direct les matchs. Non, en différé, en léger différé les matchs. Sur 10 minutes ou sur 5 minutes, moi je ne donnais pas le résultat, et donc il se créait une vie, et là c'est pour ça que les gens aujourd'hui que je rencontre, c'est tous les jours, ça se produit absolument tous les jours, les gens au-dessus de 35 ans, on dirait d'ailleurs qu'ils se sont donné le mot, me disent la plupart du temps, vous m'avez fait rêver. Mmh. Alors je leur réponds que ce n'est pas moi qui les a fait rêver, bien entendu, c'est le mariage nouveau de la télévision et du football qui devait s'avérer après une grande aventure, mais qui était naissant et qui les faisait rêver. Mais il les faisait d'autant plus rêver qu'ils ne connaissaient pas les résultats de la journée. Mmh. C'est ça. Moi-même, d'ailleurs, maintenant, quand je regarde Canal le soir, je m'interdis d'écouter la radio parce que je veux découvrir les résultats au fur et à mesure.
Oui, c'est le jour de foot qui semble le plus proche.
Oui, mais c'est le jour de foot qui est le vrai successeur, finalement.
Mmh, mmh. D'accord. Alors, justement, ça m'amène à la question des droits TV, Pierre. 668 millions d'euros, la Ligue 1 mérite ce prix ?
Non, d'abord, 666 millions d'euros, il faut rétablir les choses. Je crois que M. Thiriez a été un peu malin dans cette affaire, dans l'annonce en tout cas. Il dit qu'il a gagné plus. Non, il a gagné moins. L'an dernier, il avait eu 700 et quelques millions d'euros.
Mmh.
Quand on fait le tout, parce qu'on a oublié là-dedans les 24 millions d'euros que versait France Télévisions pour faire l'émission de la 2, qui n'existe plus. Donc il a gagné moins. Donc on ne peut pas dire que la Ligue a encaissé plus. La Ligue a encaissé moins. C'est le début de la décrue que j'ai toujours prévue. Il y aura une décrue, elle est inéluctable. Le football français ne vaut pas ça. Donc, quand les chaînes auront cessé de se faire de la concurrence, il a fallu qu'Orange arrive finalement pour faire monter les enchères, parce que sinon, ils devaient rester sur l'offre de Canal qui n'était pas très élevée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un détournement d'image. Parce que les gens aujourd'hui qui n'ont pas Canal, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas la possibilité de s'offrir Canal, ne verront plus de football français en direct. Mmh. Ils ne verront plus le championnat de la Ligue 1.
Oui, c'est le spectateur qui va payer encore davantage. Hein,
oui, mais alors il va payer davantage ou il ne va pas payer. Et même les abonnés à Canal, quand ils veulent voir un peu plus, il va falloir qu'ils rajoutent, qu'ils prennent Canal Sport.
Mmh.
Sport Plus. Bon, après, ou prendre Orange. Mais ceci dit, on oublie quand même une fondamentale. M. Thiriez me paraît l'avoir oublié. C'est que le football français vit énormément de la télévision, c'est vrai, entre 60 et 70% des budgets, selon les clubs, mais il vit aussi de l'argent public. Et cet argent public, c'est l'argent des contribuables. Donc je pense que les contribuables français avaient quand même un droit à voir de temps en temps du football à la télévision. Ils en sont absolument privés. Je pense que c'est un détournement du côté populaire du football. Nous sommes en train de rentrer dans un ghetto. Et je pense que le football français a pris un mauvais virage. C'est une mauvaise affaire. C'est une bonne affaire pour Canal+. C'est une bonne affaire peut-être pour Orange. Mais je pense que c'est une mauvaise affaire pour le football français.
Et ça va peut-être inciter les gens à aller encore peut-être davantage au stade ?
Ça, je n'en ai pas la preuve. Ce que je conçois, moi, c'est que ça va davantage inciter les gens à regarder le football étranger qui est de meilleure qualité.
Oui.
Et je pense que le téléfoot s'y perdure, et j'en ai l'impression, mais sans rien payer, ou en tout cas très peu à Canal, va faire un gros score, score qu'il fait déjà face au football français sur la 2 qui n'arrive pas à décoller.
Mm-hmm. Pierre, vous allez de temps en temps encore au stade ?
Oui, ça m'arrive.
Oui, sur Bastia,
m'arrive,
dans la région ?
Mais pas souvent. D'abord, bon, j'y vais souvent en Corse parce que j'habite moi moitié du temps en Corse et moitié du temps à Paris. Et là-bas, bon, les confrères locaux qui sont des amis me demandent souvent de servir de consultant lors des matchs de l'AC Ajaccio ou du GFCOA. J'ai d'ailleurs été consultant sur le dernier derby à Bastia-Ajaccio. Donc il m'arrive d'aller au stade. Et quand je vais au stade Ajaccio, je suis rassuré parce que c'est un stade qui est très calme, où les supporters sont très très calmes. Ça peut faire sourire des gens, les surprendre, mais c'est comme ça. Le stade de l'AC Ajaccio, en tout cas, est un stade absolument charmant, où le public, on lui reproche même un peu une certaine apathie. Mais je ne vais plus dans les stades où je découvre des supporters qui n'en sont plus, qui sont des Olibrius, qui sont des ratés de la vie, qui viennent là manifestement assouvir leur complexe. Et ce que je regrette aussi, c'est que beaucoup de commentateurs aujourd'hui ne soient plus des commentateurs. Alors, je ne fais pas de passéisme, je ne veux pas dire de mon temps, tout était bien. Non, pas du tout. Les jeunes d'aujourd'hui sont meilleurs que nous. Sauf que parce qu'on les incite, parce que leur direction les incite, aujourd'hui, ce ne sont plus des commentateurs, ce sont des supporters.
Mmh.
Ils commentent en supporters, ce qui, à notre époque, était absolument impensable.
Oui, oui. Et puis, certains donnent peut-être une meilleure opinion d'un match qui ne l'est donc réellement. Hein.
Ah oui, non, mais ça, ils sont obligés. Ils sont devenus des vendeurs. Moi, j'avais dit, avec Christian Guéné, on avait dit il y a des années de ça, mais quand je dis des années, ça fait 25 ans, quand j'ai vu la tournure que prenaient les choses, j'ai dit, déchirons notre carte de presse, nous ne serons plus des journalistes, nous n'aurons plus notre libre arbitre, parce que notre direction nous demanderont de vendre quelque chose. Et ils sont en train de nous vendre quelque chose, tout ce qu'ils ont.
Mmh, mmh.
Ça, je veux dire qu'il n'y a pas besoin même d'avoir fait ce métier pour le comprendre. Ce sont devenus des vendeurs, ce sont des battleurs.
Mmh. PSG Bastia, vous n'y serez pas, donc, en mars prochain ? au Parc ?
Ah non, là je n'y serai pas parce que je serai à Ajaccio, donc ça sera difficile.
D'accord, alors Pierre, bon, vous avez quitté ensuite TF1, je crois début 82, hein, pour ensuite complètement changer de domaine. Vous avez réalisé un film en langue corse, c'est je crois professionnellement ce dont vous êtes le plus fier.
Tout à fait. D'ailleurs, je le ressors en DVD ces temps-ci, dans un mois ou deux. D'ailleurs, quand je serai en Corse au mois de mars, c'est-à-dire, nous sommes en train de presser le DVD. Je viens de le vendre à la nouvelle chaîne Corse via Stella, par satellite. Donc, les Corses du monde entier pourront le voir. Et c'était un projet qui me tenait à cœur. Ma véritable vocation, c'était réalisateur. Moi, j'ai démarré comme réalisateur à l'ERTF. Donc, je suis devenu journaliste et commentateur par accident, à cause de celui à qui je vais rendre hommage maintenant parce qu'il est décédé il y a quelques mois, c'est Raymond Marcillac, qui était le grand chef des services des sports, celui qui a lancé la plupart des journalistes d'aujourd'hui, de Thierry Roland à Michel Drucker et d'autres. Tous ne l'ont pas remercié d'ailleurs pour autant. Et c'est Raymond Marcillac, alors que je pensais, moi, réaliser des émissions, qui m'a dit, mais non, pas du tout, tu vas présenter, tu vas commenter. Bon, c'est comme ça que j'ai pris un virage. Et puis j'en ai pris beaucoup de virages parce que moi, j'avais pas de plan de carrière. Je ne sais pas ce que c'est qu'un plan de carrière. Donc j'ai fait au gré de ce que j'avais envie de faire.
Oui, la preuve, c'est qu'après, vous êtes revenu à la télé, à la direction des sports de la 5.
Parce qu'on m'a appelé, tout simplement, parce que je n'ai pas fait acte de candidature. Il paraît qu'il y avait tous les chefs de service des sports à l'époque qui étaient, c'est pas qui paraît, j'en ai la certitude, qui sont venus à tour de rôle se présenter. Moi, le téléphone a sonné un jour, et j'ai un monsieur que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui s'appelait Monsieur Ramon, qui m'a dit, voilà, on voudrait vous voir, nous montons la 5. Alors j'avais vu effectivement quelques jours avant, je l'avais vu en photo avec d'autres personnes qui étaient en train de monter la 5. C'était resté pour moi tout à fait anecdotique. Et ben, on s'est rencontrés, on a discuté, on a vu comment on pouvait faire. Et il m'a dit que beaucoup de gens lui avaient parlé de moi, ce qui d'abord m'a surpris, m'a flatté. Mais moi je n'étais pas candidat du tout. Et le pari était beau parce que là il s'agissait de monter un service.
Oui, et on vous doit beaucoup de choses, notamment le Paris-Dakar en direct, qui a été ensuite repris sur France Télévisions.
Oui, tout à fait, oui. Qui était en fait une sorte de faux direct, d'ailleurs, mais enfin, bon, peu importe, on avait mis les hélicos. Oui, non, maintenant, ce que j'ai voulu, moi, créer, c'est que le direct n'était pas possible. Les horaires du Paris-Dakar ne se prêtent pas à faire du direct, parce qu'ils sont trop fluctuants. Mais j'ai demandé aux journalistes, plutôt que de faire le montage et de commenter en cabine, de commenter en direct à partir de l'hélico. Et donc, c'est ce qu'on a appelé, en somme, le Paris-Dakar en direct, quoi, qui était en différé d'un quart d'heure, 20 minutes, une heure, selon les cas, quoi. Bon, ça, c'était fluctuant. Oui, on a essayé de faire des choses, mais je suis content aussi de l'équipe de journalistes, parce qu'aujourd'hui, ils sont, je les ai vus encore dernièrement, ils sont tous très bien professionnellement. Christian Prudhomme est patron du Tour de France. C'est pour ça que j'œuvre, d'ailleurs, avec lui, pour avoir le Tour de France en Corse en 2013, et ainsi de suite.
On en reparlera. Alors effectivement, on vous doit aussi les tournois du Grand Chelem pour le tennis et puis quelques matchs de foot quand même sur la 5. Hein.
Oui, tout à fait, on avait essayé. Je sais bien que les grandes chaînes à l'époque nous faisaient barrage, mais on a essayé de lutter, on a trouvé un peu des failles dans le système et bien on a fait quelques matchs de foot, même quelques matchs de Coupe du Monde en Italie que j'ai commenté avec Balédan. On était en train, et puis n'oubliez pas qu'on a eu la Formule 1.
Oui, bien sûr, absolument.
On a eu la Formule 1 et que je pense que on a été un peu des précurseurs sur la façon de traiter la Formule 1. D'ailleurs, on avait rodé les équipes à Pau lors des Grands Prix de Pau de Formule 3000 et nous étions fin prêts quand on a pris la Formule 1. Mais moi, j'ai quitté la chaîne avant qu'elle ne sombre, un an avant.
Oui, je crois savoir que vous êtes parti parce que on avait proposé le poste à Patrice Dominguez, c'est
non,
ça.
Non, pas du tout. Non. On lui avait encore rien proposé. Mais comme Lagardère achetait la chaîne et que Patrice Dominguez donnait des leçons de tennis à Lagardère, c'était pas la peine de me faire un dessin.
D'accord.
Bon, donc j'ai anticipé pour leur éviter de faire encore ce qu'on fait généralement en télévision et ce qu'on m'a fait sur TF1, de vivre quand j'étais en vacances. Quoi.
Ouais. Alors ensuite, c'est une autre orientation que vous prenez, une autre direction, en vous retrouvant à l'Olympique de Marseille.
Oui, où j'ai lu dernièrement sur Internet que j'étais resté de décembre 94 à janvier 95. Non, je reste un an et demi. Enfin bon, peu importe. Ça, c'est anecdotique. Je ne suis pas allé quand même pour 15 jours. Mais non, mais j'en suis fier encore aujourd'hui parce que bon, même les journalistes marseillais ont oublié quand même quelque chose. Et c'est peut-être la première fois que je vais quand même faire une mise au point. C'est que quand on prend l'OM, ils sont quatrième en deuxième division puisqu'ils avaient été rétrogradés réglementairement par la Ligue. et qu'à la fin de, l'année, alors que le budget entraîneur, quand j'arrive, est de 400 000 francs, au bout de d'un mois où je suis, le budget entraîneur descend à 100 000 francs, et nous sommes champions de deuxième division et demi-finalistes de la Coupe. Nous perdons au Parc des Princes devant le Paris Saint-Germain en demi-finale. Depuis, je ne pense pas que, l'Olympique de Marseille... Alors, l'année d'après, je ne suis plus là à la fin de l'année. Ils sont toujours en deuxième division. Ils montent, mais ils ne sont que deuxième. Tout le monde l'a oublié. Ils ne sont même pas champions de deuxième division.
Oui, parce qu'on va rappeler que vous étiez arrivé après l'époque après et l'épisode Bernard Tapie.
Hein. Oui, c'est-à-dire sur les ruines.
Et vous aviez un projet ensuite pour continuer. Malheureusement, il n'a pas été accepté, ce projet.
Non, on ne pouvait pas parce que M. Gaudin, maire de Marseille, et surtout son chef de cabinet à l'époque, était tout puissant. Alors que nous avions mené la barque jusqu'à bon port, les joueurs avaient été payés jusqu'au bout. Ensuite, bien entendu, bon, le trou était tellement abyssal qu'il il a fallu faire un dépôt de bilan. Il y a une société mixte dans laquelle la ville de Marseille, légalement, était majoritaire. Et on m'a demandé de m'associer avec des gens avec qui je ne voulais pas m'associer, des gens qui aujourd'hui sont tous mis en examen d'ailleurs.
D'accord. Donc vous n'avez pas eu ensuite envie de continuer avec un autre club, Pierre ?
Non, parce que, vous savez, il faut être porteur de capitaux. Les présidents qui sont nommés comme ça par des capitalistes quels qu'ils soient ne sont jamais que leur objet. Et je n'ai pas cette habitude. Alors il arrive un moment où si vous n'avez pas la maîtrise capitalistique, il ne faut pas y aller parce que c'est trop difficile.
Donc aucun regret ?
Non, aucun regret. Non, pas du tout. Jamais.
Alors effectivement, après, vous êtes maintenant donc à la retraite, Pierre. Vous êtes encore un peu actif quand même ?
Oui, toujours. Non, moi je ne sais pas ce que... D'abord, je ne sais pas ce que c'est que la retraite. Oui. Moi j'écris, j'ai co-organisé en Corse 4 championnats d'Europe de boxe
avec
Michel Acariès il n'y a pas longtemps. J'œuvre avec Christian Prudhomme pour que le Tour de Corse parte de la... pour le 100e Tour de France. Que le 100e Tour de France parte de Corse en 2013, donc avec les 3 premières étapes. Donc il faut à la fois que je vois les politiques là-bas, que je vois la direction du Tour de France. Bon. Non, j'ai toujours des fers au feu, sans me mettre la pression, bien sûr, mais j'ai une vie plutôt active.
Oui, alors justement, votre grand projet, c'est de faire, je crois, 3 étapes en 2013 sur le Tour de France.
Ce qu'ils appellent maintenant le grand départ, qui aura lieu d'ailleurs de Brest cette année. Mais là, en 2013, c'est le 100e Tour de France. Ce n'est pas les 100 ans du Tour de France, c'est le 100e. Il faut bien comprendre qu'il y a eu 2 interruptions à cause des guerres. Et donc, bon, le 100e, c'est symbolique, c'est une évidence. L'Europe entière le veut. Je sais que Bonn est candidat, Bilbao est candidat. Il y a énormément de villes qui sont candidates. Nous sommes candidats aussi. Je pense, moi, qu'il serait tout à fait normal que le 100e Tour de France parte de France, peut-être pas de l'étranger. Donc nous avons un atout supplémentaire, puis nous avons un parcours magnifique, nous avons des paysages extraordinaires à montrer en direct au monde entier. Enfin, nous avons la fierté toujours de ce qu'on offre, quoi. C'est normal.
Et le fait d'avoir Christian Prudhomme à la tête du Tour de France, ça peut aider ?
Ah ben oui, effectivement, ben, il a été...
Ben oui.
Il a commencé avec moi sur la 5, bon, ça c'est, je veux dire, oui, parce que Jean-Marie Leblanc est resté assez longtemps insensible au projet, parce que bon, se retranchant derrière peut-être quelques excuses d'éloignement, il faut traverser la mer, mais enfin bon, depuis ils ont prouvé qu'ils sont allés en Angleterre et autres, donc je pense que ceci n'est plus un grand problème, mais oui, effectivement, le fait que Christian Prudhomme... soit le patron de Tour de France, ça favorise les choses, c'est une évidence.
Alors donc, la décision tombera vers 2011 à peu près ?
Oui, à peu près, oui, 2010. Je pense qu'en 2010, on devrait déjà être quand même fixé entre 2010 et 2011, parce qu'après, ça demande quand même une sacrée organisation. Donc, parce que là, il y a des problèmes de logistique, de bateaux, de peut-être d'hôtels flottants. Enfin bon, c'est un gros chantier, mais qui pour la Corse, et même je pense pour le Tour de France quelque part, ce serait très magnifiant.
Alors vous avez dit aussi que vous aviez aussi œuvré dans votre autre grande passion sportive qu'est la boxe, Pierre. Vous avez vécu une période assez faste pour la boxe. Aujourd'hui, c'est un sport qui quand même connaît une certaine crise.
Ben moi j'ai eu cette chance, parce que j'ai beaucoup eu de chance dans ce métier finalement. J'ai connu la dernière grande période de la boxe. C'est-à-dire que je ne vais pas tous l'énumérer, mais j'ai commenté Mohamed Ali, avec qui j'ai fait 2h30 d'émission d'ailleurs, où on a fait toute sa carrière, en images et nous deux sur le plateau. J'ai fait tous les championnats du monde ou presque de mon zone. J'ai commenté Napoles, j'ai commenté Léonard, j'ai commenté Chavez, j'ai commenté Duran. Enfin, je veux dire que c'est difficile quoi, de faire mieux. Il y avait tous les grands. Donc maintenant, effectivement, il y a une époque complètement de pauvreté. Alors là aussi, les commentaires s'en ressentent parce que, bon, à notre époque, on pouvait se permettre de dire ce qu'on voulait, c'est-à-dire même quand c'était pas bon. Maintenant, ben, ils sont obligés de dire que c'est bon et c'est pas facile hein, la plupart du temps parce qu'on n'a quand même pas de très, très grands combats. On n'a plus les boxeurs du tout de l'époque parce que j'avais écrit une histoire de la boxe qui s'appelle La fabuleuse histoire de la boxe, qui est la seule histoire mondiale d'ailleurs à ce jour, que trois éditeurs différents ont repris. Et j'avais dit malheureusement en conclusion que la boxe est un sport de pays pauvres et que dans les pays évolués, la boxe chuterait complètement parce qu'elle n'a plus de raison d'être. C'est un peu ce qui se produit.
C'est aussi peut-être parce qu'on a créé quatre fédérations que c'est un peu difficile pour le grand public de s'y retrouver quand même.
Oui, alors il y a eu effectivement, vous avez raison de le souligner, parce qu'il y a eu tous les aléas possibles entre les poids qu'on a rajoutés, les fédérations qui se sont multipliées pour des problèmes d'intérêt personnel, tout ça effectivement ne fait pas très sérieux. Au moment où il aurait fallu une concentration parce qu'il y avait moins de talent, c'est à ce moment-là qu'on a fait une dilution. Donc effectivement, la boxe on ne pouvait pas s'en sortir bien.
Et puis un seul champion du monde, donc Brahim Hassoun.
Oui, un seul champion du monde en France.
Oui, bien sûr.
Bon, ben, on n'a pas depuis quelques années un très grand potentiel de boxeurs. Nous sommes aussi dans les pays évolués. Et puis il semble que maintenant, un jeune, y compris dans les banlieues difficiles, ne descende plus à la salle de boxe pour se défouler, mais il a quand même toujours sa mob, il a toujours un peu d'argent en poche, peu importe comment c'est arrivé. Je veux dire, à mon époque, à moi, on descendait à la salle de boxe parce qu'on n'avait pas d'argent dans la poche, on ne savait pas quoi faire, et on descendait parce que c'était un défouloir aussi. Et c'est comme ça que j'ai vu à Ajaccio, moi, où le virus m'a gagné, ben, des boxeurs magnifiques qui aujourd'hui ne vont plus à la salle de boxe. Il n'y a plus l'équivalence.
Ah oui, bien sûr. Et donc, c'est ce qui explique que les télés aujourd'hui aient boudé ce sport, parce que ce soit TF1, France Télévisions ou même Canal, il y en a beaucoup moins qu'avant. Quoi, hein.
Ah ben, il n'y a plus que Canal, pratiquement, qui fait de la boxe.
Encore, les moins
autres,
qu'avant.
Les autres ont abandonné, oui, mais... Moi, quand j'étais sur TF1, la boxe était sur TF1 parce que j'avais monopolisé la boxe à l'époque. Mmh. Enfin, vous voyez que chaque semaine ou presque, on offrait à la direction un Monzon Napoles, un Mohamed Ali Frazir. Après, ça a été un Duran Léonard. Après, vous n'avez plus du tout cette équivalence. C'était des moments extraordinaires. Moi, j'ai commenté les Jeux Olympiques à Montréal où j'ai découvert sur le ring à la fois Léonard, Spinks, Davis. Enfin, une génération fabuleuse de boxeurs américains. Maintenant, ce n'est plus le cas du tout.
Mmh. Alors, vous avez parlé effectivement des bouquins que vous avez écrit, hein, notamment La fabuleuse histoire de la boxe. Il y a d'autres projets dans ce domaine-là, Pierre ?
Non, après j'ai fait La légende de la boxe, qui sont les 60 plus grands champions à mes yeux, qui est chez Minerva. J'ai écrit La vie de monde de Carlos Monzon, parce que c'est une vie qui m'a toujours intéressé. J'ai côtoyé Carlos Monzon pendant longtemps, et j'avais dit d'ailleurs une chose qui m'a surpris moi-même. J'avais dit, c'est un homme que je n'imagine pas vieux. Eh bien, il n'a pas vieilli, puisqu'il est mort à 52 ans dans un accident de voiture, alors qu'il était permissionnaire parce qu'il était encore en prison. Et je pense que ça ferait même un scénario fabuleux. Et puis là, comme je fais à peu près un livre tous les deux ou trois ans, j'hésite sur le sujet, je ne suis pas encore décidé.
D'accord. Vous auriez aimé être aujourd'hui au cœur de l'action parce que c'est plus dur aujourd'hui d'avoir les sportifs. Il faut passer par des intermédiaires, que ce soit dans le monde du foot ou en boxe, par des agents. Il y a moins cette complicité entre le sportif et le journaliste aujourd'hui.
Ah ben oui, ben tout à fait. Ben, vous savez, Dominique Colonna, qui est mon grand ami, me raconte toujours que quand il était au Stade de Reims, gardien du Stade de Reims et de l'équipe de France, les journalistes se déplaçaient en train avec eux, dans le même compartiment, les journalistes de football. Donc ils jouaient au tarot ensemble. Bon. Ensuite, moi j'ai connu l'époque où on rentrait dans les vestiaires tout de suite. Et puis le président Rocher à Saint-Étienne était le premier à nous dire « Non, vous ne rentrez plus tout de suite, vous attendez 20 minutes. » Alors bon, déjà pendant 20 minutes, on s'est aperçu déjà qu'il y avait une sorte de fossé qui se créait entre les journalistes et les joueurs. Et moi, je n'ai pas connu, en tout cas en tant que journaliste, je n'ai pas connu l'époque des agents. Ouais. Maintenant, vous avez les agents.
C'est plus
bon, vous avez un marketing fabuleux. Alors non, je n'aurais pas aimé. Non, je le dis franchement, je n'aurais pas aimé parce que je n'ai jamais pensé que les joueurs, d'ailleurs, devaient jouer les prima donna. Moi, je me souviens d'un joueur célèbre à l'époque, au Combien, j'ai voulu l'interviewer. Et il m'a dit, oui, mais j'ai un coquard. Je lui ai dit, oui, mais tu es artiste de cinéma, tu es joueur. Un coquard, pas un joueur de football, c'est pas grave.
Bien sûr.
Il m'a dit non. Ah, j'ai dit, écoute, tu me dis non. Bah, alors voilà, moi, je téléphone, je fais ce que je veux. Alors, je préfère te le dire tout de suite. Tu m'as dit non aujourd'hui. C'est non pour toujours.
Mmh.
Et 3 ans après, son président est venu me trouver en plaidant sa cause. Parce que je pense que c'était les vrais rapports, c'était ça. On devait avoir des rapports consensuels. Maintenant, mais des rapports directs, en tout cas d'homme à homme. Maintenant, s'il faut passer par les agents, vous avez un tas d'interférences, vous avez des contrats. Vous savez, quand TF1 invite Domenech, je ne suis pas tout à fait convaincu que c'est le présentateur qui a convoqué Domenech.
C'est sûr.
Je pense que c'est plutôt contractuel. Donc, bon, vous faire imposer constamment quelque chose, non, je pense que je ne pourrais pas.
L'apport des consultants, c'est un plus considérable, important.
Alors, l'apport des consultants, moi j'avais essayé en boxe déjà et même en football. Alors, le consultant, c'est quelque chose qui n'a pas de statut. C'est-à-dire que vous avez de bons consultants. Ils sont rares. Parce que ce qu'on demande à un consultant, enfin moi en tout cas, je lui demandais 2 choses. La première, de reproduire les impressions que le téléspectateur ne connaîtra jamais. Et non pas de copier et non pas de plagier le journaliste. Alors, il y a eu beaucoup de consultants qui ont plagié les journalistes. Bon, ça n'avait pas de raison d'être. Quelques-uns apportent quand même une sorte de recul, souvent une analyse technique ou tactique que le journaliste n'a pas vue. Donc je pense qu'à ce chapitre-là, ils sont une minorité, mais qui apportent quelque chose. Beaucoup, beaucoup, hélas, ce sont des fontaines d'eau tiède.
Et puis aussi des moyens qui nous permettent de mieux travailler aujourd'hui qu'à votre époque, Pierre.
Oh, mais là, c'est même pas comparable. À notre époque, on partait tout seul. Il fallait trouver des techniciens locaux, y compris une fois à Kiev où ils comprenaient rien, nous non plus. Et en plus, tout était en caractère cyrillique. Il fallait se démerder soi-même. Si le son ne marchait pas, il fallait le signaler. Bon, maintenant, ils partent avec un ingénieur du son, avec, paraît-il, un assistant. C'est toujours, sinon pas un chauffeur. Enfin bon. Là, on ne peut plus comparer. Là, nous sommes dans des mondes tout à fait différents. Nous, c'était l'artisanat et ils sont passés au niveau de la grande industrie.
Hein. Oui, et puis avec des micros, on se rappelle, hein, ces micros-là.
Ah ben, c'est des fameux micro-bouches. On n'était même pas sûr, d'ailleurs, qu'ils soient désinfectés. Vous aviez une barre sous le nez qui vous sciait la base du nez, qui était désagréable au possible. Mais bon, il fallait s'y faire. Mais enfin, finalement, tout ça, ils n'ont jamais qu'un confort supérieur, et je ne sais pas si le confort dans ces cas-là, ce n'est pas un peu émollient.
Effectivement. Merci Pierre, en tout cas, d'avoir remonté un peu le temps avec nous.
D'accord.
Hein, merci beaucoup, et puis je crois savoir que vous allez aller suivre Téléfoot maintenant, hein, parce que vous restez quand même un téléspectateur assidu
tout
et
à
fidèle.
Fait, tout à fait. Hein? Tout à fait. Et puis avec les grands écrans maintenant, c'est un problème, c'est un plaisir qui est encore accentué.
Et justement, les matchs, naturellement, un canal a apporté un bien énorme dans la retransmission des matchs. Hein. Ça a montré les matchs un peu différemment.
Oui, mais je veux rendre à Bietris ce qui lui appartient, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec plein d'idées, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins vrai que quand vous obtenez 17 à 21 caméras sur un terrain et quand dans une chaîne d'État, quand vous en demandez 5 ou 6, on commençait à vous dire que vous aviez des goûts de luxe, ça n'est pas comparable. Hein. Si nos grands réalisateurs de l'époque, René Lucot, Pierre Badel, avaient eu à leur disposition 15 à 20 caméras, je pense qu'on aurait révolutionné le football à la télévision bien plus tôt.
C'est sûr. Merci Pierre en tout cas.
Merci à vous et voilà. Bon dimanche.
Merci, bon dimanche. Voilà donc pour celui qui a créé Téléfoot, donc notre ami Pierre Cangioni. Alors, on va marquer une pause musicale, ensuite on va donc parler un tout petit peu de la CAN, et puis on vous donnera aussi les résultats de la 24e journée donc, de Ligue 1. Allez, pause musicale, et ensuite on va rappeler les résultats de la soirée de championnat de foot. Voilà, 10h41 minutes. On va encore remercier donc Pierre Cangioni, hein, l'ancien le créateur et l'ancien présentateur de Téléfoot, qui était l'invité de notre première partie d'émission, hein, notre confrère et ami Pierre Cangioni. On va rappeler les résultats de la journée de Ligue 1 d'hier, et puis on aura Juliette Trouvel, hein, parce que bah, notre ami Hippolyte Dangbeto n'étant pas disponible, on ne pourra pas parler de la Coupe d'Afrique des Nations, hein, dont la finale aura lieu cet après-midi à 18h entre l'Égypte et le Cameroun. Alors on va rappeler naturellement les résultats quand même d'hier, hein. Finalement c'est le statu quo pour cette 24e journée de championnat. Bordeaux qui a donc très largement battu Metz 3-0, match nul entre Monaco et Lille 0-0, réveil de Valenciennes, hein, qui a battu Lorient 3-0, Nancy qui bat Toulouse 1-0, Toulouse donc qui se retrouve dans une situation très difficile, hein. Et puis Nancy qui a aussi renoué avec la victoire, Rennes battu, et là c'est la crise, donc à Rennes, Rennes battu à domicile par l'équipe d'Auxerre 2-1, Lyon qui a eu un peu de mal, mais qui s'est imposé sur la fin contre Sochaux, 4-1. Et puis Strasbourg qui a très largement battu Saint-Etienne, 3-0. À 18h, il y aura donc Caen qui recevra Lens. Et puis ce soir, un match phare de cette 24e journée, Nice contre Marseille. Et puis cette 24e journée, bah, elle avait commencé hier avec le match nul du Paris Saint-Germain face au Mans, au Parc des Princes, 0-0. Alors je suis ravi au micro de retrouver la plus fidèle des supportrices du Paris Saint-Germain, c'est Juliette Trouvel. Juliette, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
Alors ça s'est passé comment hier, Juliette, au Parc des Princes?
Écoutez, c'était, je dirais, un match un peu emballé dans la deuxième partie. Un peu moyen avec des pointes de Jérôme Hauten, de Souza, qu'on attendait un petit peu et qui nous a montré quand même qu'il est capable de beaucoup de choses. Mm-hmm. Il faut lui laisser le temps de se mettre en place, hein. Et puis, on a rencontré une équipe du Mans, un peu, je dirais, des bourrins. Ils jouaient, ils tapaient, ils frappaient des coups de pied. Rauten, sur qui il a marché, après il lui a donné un coup de pied. Mais bon, l'arbitre a trouvé ça tout à fait normal. Ensuite, bon, enfin, il y avait des erreurs d'arbitrage. Alors là, vraiment, je pense que ce serait mieux pour lui d'aller faire les poussins, au moins comme ça, il sifflerait toutes les fautes les unes après les autres. Alors que bon, il y avait des fautes beaucoup plus importantes qu'il n'a pas sifflées et que bon, deux fois des hors-jeux qui étaient signalés alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, une fois pour Diané, une fois pour Lundila. Armand qui monte pour prendre le ballon, le manceau qui se cabre en tenant le dos, il siffle faute. Enfin bon, c'était vraiment une catastrophe d'arbitrage, je pense. Et M. Moulin fait partie des acolytes de M. Chaperon. Et que voulez-vous, tant qu'on aura des arbitres de cet ordre-là, je pense à d'une façon générale, ce qu'il faudrait faire, c'est changer les arbitres, prendre tous les arbitres français, les envoyer aux Antilles et puis nous envoyer les Antilles ici. Les arbitres des Antilles ici. Ouais, alors là, je pense que ça pourrait avoir des choses différentes.
Alors, on n'a pas donné le classement, hein. On va simplement rappeler que Lyon, a 49 points. Devant Bordeaux, 45 points. Nancy, donc, a renoué la victoire et 3e avec 41 points. Ensuite, effectivement, on voit un tir groupé avec Nice, 4e, 37 points. Oui. Valenciennes, 5e, 35 points, hein, ainsi que Monaco. Alors, Paris Saint-Germain, Juliette, donc, est 12e. Avec 30 points.
Oui.
Hein, le même nombre de points en tout cas que Rennes.
Que Rennes,
et
oui.
Donc il devance Saint-Etienne et Auxerre d'un tout petit point. On voit quand même que c'est très serré. Hein. Si on gagne deux matchs, européen. Si on perd deux matchs, on est barragiste. Quoi. C'est un peu ça.
C'est très serré, autant pour descendre que pour monter. Hein.
Oui.
Parce que de toutes les manières, bon, Paris aurait gagné. Là, on passait au moins 10e ou 11e, hein, je crois, puisque Marseille a plus 5 de différence. Et bon, on montrait d'une place, mais bon, on est resté sur place, ça ne sert rien. Mais bon, moi, je lance un appel quand même aux arbitres, il faut qu'ils arrêtent, enfin. Quand te donner un carton à un capitaine qui vient discuter avec l'arbitre, avouez quand même, si le capitaine ne peut pas discuter avec l'arbitre, qui va discuter avec lui en fin de match? Alors, moi, ce que j'ai remarqué, les arbitres, ceux qui vont faire maintenant, on va avoir 5 grands matchs bientôt. Et vous allez voir qu'à chaque match, les joueurs anciens qui ont déjà 2 cartons jaunes vont prendre un 3e carton pour ne pas jouer le match suivant. Là, c'est Armand. Bon, il va rester Paoletta, Yepes, Roten, on peut mettre Diané dans le lot, et puis, bon, je sais pas. Mais vous allez voir, à chaque match qui vont venir, les arbitres se mettront de façon à donner un troisième carton jaune à un ancien pour qu'il ne joue pas le match d'après. Et ça, Armand, est important, enfin, dans un match. Mmh. Bah, quand on voit que là, il a pris un carton, je crois qu'il ne va pas jouer contre Marseille.
Oui, alors justement, on va parler, hein, parce que la dernière fois qu'on s'était eu donc, au micro, Juliette, hein, Paris sortait d'une période un peu difficile. Depuis,
oui.
Ça va un peu mieux quand même au Parc des
Princes.
Ah oui,
hein. Mais ça va mieux.
Bon, hier, il y a 0-0, mais ça va mieux quand même. Il y a
ça va mieux.
La nette victoire contre
bon,
Lens.
On a loupé des occasions de but.
Ouais.
Enfin, bon,
Roten a tiré sur le poteau, je crois.
Oui, il y a le poteau. Il y a De Souza quand bon, c'est renvoyé par le gardien. Il y a Diané deux fois de la tête. Ça passe à côté. Bon, c'est vrai que les Mansons ont eu aussi deux tirs un peu dangereux. Mais quelque part, bon, ce match-là, on devait le gagner. On devait le gagner. Si l'arbitre, avec son sifflet de crotte de pigeon, sifflait comme il fallait les fautes qu'il fallait, eh ben à ce moment-là, les choses auraient changé, auraient été différentes.
Comment expliquer cette métamorphose du PSG au Parc, hein? Bon, ils ont battu Lens donc, au début du mois de janvier. Ensuite, il y a eu la victoire en Coupe de la Ligue assez nette, hein, avec donc, une équipe réduite à 10. Donc, victoire contre Valenciennes. Comment expliquer finalement que bah, ça y est, ça va mieux au Parc des Princes?
Je pense qu'ils ont maintenant un peu plus de confiance. Mmh. Ils ont pris un peu d'assurance. Et puis là, quand même, les deux joueurs que Paris a achetés, Souza et Everton, sont quand même des joueurs qui pourront apporter quelque chose à Paris, bien qu'on ne les ait pas vus encore. On a vu Souza hier. Bon, bien sûr, il a fait... au départ, il n'avait pas trop le ballon. Alors, est-ce que c'était une façon... Parce qu'il était très bien marqué. Mmh. Mais bon, quelque part, je crois il y a une assurance très très forte, une confiance qui s'est remise un petit peu, et là ça devrait aller. Là maintenant, je fais confiance, sauf si l'arbitrage à chaque fois nous tue, quoi, comme d'habitude.
Oui. On a ressenti ça dans les tribunes du Parc hier, les supporters
sont
beaucoup plus soudés, beaucoup plus avec leur équipe.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, là, je suis en B en général. Là, vraiment, on a senti déjà l'ovation à De Souza quand il est sorti. Parce qu'en général, les supporters parisiens sont très difficiles pour accepter quelqu'un. Mais alors là, une ovation réelle. Et puis, Paoletta quand il est rentré. Bon, c'est vrai que Paoletta, c'est notre Paoletta. Et puis,
tout,
quoi.
Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, la suite, naturellement, du championnat, c'est ce choc énorme. Et ça tombe bien parce qu'on ne pourra pas en parler la semaine prochaine puisqu'on sera en direct sur Bullion pour le semi-marathon. Donc, la semaine prochaine, bah, c'est le Classico, hein, Marseille-Paris-Saint-Germain.
Oui, c'est le Classico, Marseille-Paris-Saint-Germain. bon, j'espère quand même que bon, les Marseillais vont être accueillants. Ça, c'est un point que les supporters parisiens vont aussi bien se comporter. Parce que s'il suffit de deux ou trois demeurer pour que ça change et que ça prenne des proportions. Et puis que, bon, Paris fera un bon match. Bon, surtout que Marseille est en train de remonter un petit peu, là.
Ouais, Marseille va mieux. Belle victoire la semaine dernière contre Monaco. Hein, bien qu'ils aient un match difficile aujourd'hui à Nice. Hein.
Oui, ils ont un match difficile. Mais enfin, bon, je crois que... autant que l'arbitrage aussi a été mauvais pour Marseille... pendant au moins deux fois, autant que bon, Marseille en a bénéficié aussi d'avantages avec les arbitres. Alors, est-ce qu'ils cherchent à se rattraper d'un match à l'autre? Moi, je trouve ça ridicule. Mais alors, quand on voit Madonna qui le ballon rentre, je sais pas, moi je suis joueur, c'est l'honnêteté qui doit aussi primer. Le ballon est rentré, l'arbitre ne l'a pas vu, peut-être. À moi d'aller dire à l'arbitre, je suis désolé, monsieur l'arbitre, le ballon est rentré. Enfin, qu'est-ce que ça... C'est un but pour l'adversaire, c'est un but pour l'adversaire. Bon, alors, ils ont gagné, je crois, 4 ou 5-1, quelque chose comme ça. Mais à 2-0 au départ, ça allait changer la donne. Peut-être que l'équipe n'allait pas gagner non plus. Mais bon, je pense que les joueurs aussi doivent être honnêtes. Quand ils font une faute, ils acceptent. Quand bon, le ballon est rentré, que le gardien aussi le dise. Parce que sinon, un gardien comme ça en équipe de France, moi, j'en veux pas. Je trouve que c'est de la malhonnêteté.
Oui. Oui, c'était la semaine dernière contre Monaco. Hein.
Voilà, c'était contre Monaco.
A gagné en Coupe de la Ligue, effectivement, 3-1.
C'est C'était Monaco.
C'est ça. Ouais, ouais. Donc Marseille qui va mieux. Mais est-ce que le fait de jouer Marseille, finalement, une semaine où Marseille va jouer la Coupe UEFA, hein, la Coupe d'Europe, puisqu'ils vont recevoir le Spartak de Moscou mercredi, ça peut être un avantage aussi pour le PSG, qui va avoir toute la semaine pour bien se préparer?
Oui, mais enfin, moi, j'aime pas trop quand il y a trop de semaines de séparation.
Pourquoi?
J'aime bien quand même que... Ouais. Mais non, parce qu'il y a un repos. Bon, ça peut aider, c'est vrai, parce que, bon, ils travaillent pendant ce temps. Mais quelque part, je pense qu'ils perdent aussi un petit peu.
Ouais.
Moi, j'aime bien quand les matchs se répètent. À la limite, je serais pour un match tous les trois jours.
Ah bah, et les joueurs aussi aiment mieux, hein, parce qu'ils restent dans un certain rythme. Contrairement
voilà,
à ce qu'on pourrait croire, ils restent dans un rythme. Hein,
c'est nettement plus intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et bon, c'est... Enfin bon... Parce que c'est la Ligue et la Fédération, ce sont eux qui fixent. Hein. Nous, on est obligés de suivre. Hein.
Alors, on l'a dit, hein, tout est possible en championnat. On gagne deux matchs, on est donc européen. On perd deux matchs, on est donc barragiste. Ceci dit, pour Paris, il y a un coup à jouer, c'est la Coupe de la Ligue. Hein, parce qu'il y a un PSG au Serre très prochainement.
Oui, 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 mais bon, ça, moi, je te l'ai dit, bon, je fais confiance à Paris pour gagner les deux coupes. Hein.
Oui, oui, oui.
Et se placer entre... entre les, pour le premier et le dixième, je pense vers 7-8e, quelque chose comme ça.
Mmh. Alors justement, Paris-Auxerre en Coupe de la Ligue, et puis ça tombe bien parce qu'on avait Pierre Cangioni en première partie d'émission.
Oui.
Il y a PSG-Bastia donc en Coupe de France au mois de mars.
Prochainement,
au
oui, 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 oui.
Hein oui. Donc ce sont des matchs un peu pièges, attention, hein, PSG-Bastia.
Ce sont des matchs pièges, mais je pense que le PSG est habitué un petit peu. On a bien vu avec le Poiré Survie, on a vu avec, je ne me rappelle plus quelle autre équipe, équipe aussi.
Oui, c'est Épinal.
Paris est habitué et sait se préparer pour ces matchs-là.
Mmh, bien sûr. Alors Juliette, donc en dehors de ces deux matchs, on a une de ces deux matchs donc qui attendent Paris Saint-Germain, on a une journée de championnat finalement assez classique, assez traditionnelle. Hein, tous les, il n'y a pas eu de changement en tête donc du championnat. Tous les gros, tous les favoris, ont gagné. C'est le statu quo.
Oui, bon, Bordeaux va très bien. Ouais. Lyon peine un petit peu, hein, quand même.
Ils ont eu un peu de mal,
parce
effectivement.
Que
mais...
ça fait deux matchs de suite où on ne sent pas le Lyon rougissant qu'on avait il y a 3-4 ans.
Le Lyon rougissant, c'est pas mal, ça.
Oui. Alors là, maintenant, je pense que là aussi, il faut dire qu'avant, les arbitres, bon, j'en ai un petit peu après eux, mais c'est vrai que les Lyonnais étaient un petit peu avantagés. Et cette année, ce que j'ai remarqué, c'est que les arbitres les mettent au même taux. Et quand il faut leur donner des cartons, ce qui ne plaît pas à M. Aulas, mais quand ils doivent prendre des cartons, ils en prennent. Alors qu'avant, les arbitres se retenaient de leur donner des cartons.
Mmh. Et puis Lyon qui va aussi rentrer dans un mois stratégique. Hein. Il y a
oui.
Manchester dans une dizaine de jours.
Oui,
hein.
Oui, oui.
Hein, donc là,
ouais, ça va être difficile pour eux. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Ça va être très, très, très difficile. Moi, je les vois même pas en quart. Hein.
Ouais, ça va être difficile.
Bah, c'est dommage, parce que bon, c'est une équipe française, ça, il faut dire. Bon, à partir du moment où c'est une équipe française qui joue, bon, mais je préfère que ça soit le PSG, quoi.
Mmh, bien sûr, mais ça viendra, ça reviendra.
Oh, ça viendra, non, je crois. Il l'a dit, Le Guen, hein, il se donne 2 ans pour mettre en place une équipe. Alors, laissez-le travailler, qu'on le laisse tranquille, qu'on ne cherche pas sans arrêt à taper sur Paris. Et puis, cette saison, ça va être assez intéressant. Et je pense que la prochaine saison, nous, à ce moment-là, Paris va se faire remarquer et on parlera différemment de Paris, ou on n'en parlera pas peut-être aussi.
Alors, on a parlé avec Pierre Cangioni des droits de télé. Juliette, 668 millions d'euros hein, donc pour les 4 ans qui arrivent pour les droits de télé. Ça va se répartir entre Canal+ et puis
Orange. Oui.
Vous, la supportrice assidue du Paris Saint-Germain, vous en pensez quoi? C'est bien pour les clubs? C'est pas bien? Thierry sauve sa tête
Moi, je ne sais pas trop à
parce
quoi.
Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ça revient quand même.
C'est bien pour les clubs si seulement les supporters pouvaient en bénéficier. Mais les supporters n'en bénéficient pas parce que c'est toujours eux qui doivent encore payer pour voir un match. Bon, je pense que ça va augmenter un peu les prix. Ça va être... on n'a aucun avantage. Alors, je ne vois pas... c'est vrai que moi, je vois mon match directement au parc, sauf si c'est un match à l'extérieur ou une coupe. Mais je pense qu'il faudrait de temps en temps aussi que cet avantage-là... les supporters abonnés puissent bénéficier d'un prix spécifique pour regarder les matchs, quoi.
Bah, c'est vrai que le téléspectateur qui va vouloir tout suivre va devoir prendre deux abonnements.
Il devra payer, quoi.
Oui, il va payer en plus.
Il devra payer en plus. Et bon, c'est bien dommage, quoi. C'est bien dommage. Ouais, parce que c'est quand même les supporters, les téléspectateurs qui font marcher la télévision. Mm-hmm. Si les gens ne prennent plus de Canal+, ne prennent plus d'Orange et ne regardent plus les matchs, ils regardent plutôt des films, eh ben bon, écoutez, ça va faire du mal, quoi.
Oui, parce que on va rappeler, Juliette, hein, que donc il y aura le match la saison prochaine. Donc il y aura les matchs à partir de 19h, hein, donc le samedi, avec un match décalé, donc le grand match du samedi soir décalé à 21h.
Oui.
Et ça sera sur Orange. Et donc sur Canal, on aura donc le match de l'après-midi plus le grand match du dimanche soir, entrecoupé donc de la grande émission de résultats de foot, hein, qui va donc remplacer France de foot. Ça veut dire que si on n'est pas abonné à Canal, si on n'est pas abonné à Orange, l'amoureux de la Ligue 1, il pourra pratiquement pas voir les buts ou très brièvement les buts. Et ça pose problème.
Ceux qui sont abonnés à Canal, bon, ça va, on a encore déjà cet avantage.
Il y a un jour de foot aussi, le samedi soir, qui reste.
Mais s'abonner à nouveau à Orange, à moins qu'à ce moment-là, Orange donne aussi une gratuité de télé à ceux qui prennent le mobile chez
peut-être,
eux.
Peut-être, parce
qu'effectivement... Alors, s'il y a ça, ben moi, je suis partante.
Effectivement, on pourra voir son match sur mobile, et puis également sur son écran Internet, à condition d'être d'abord abonné à la DSL, plus...
Oui.
À Orange. Donc ça va effectivement, pour l'amoureux du foot et le téléspectateur, ça va être beaucoup plus onéreux, hein, naturellement.
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que c'est pas une bonne chose aussi, peut-être, pour renouer avec le stade? Parce qu'on sait que cet argent-là, en principe, elle est redistribuée au club pour l'amélioration donc des stades et puis aussi pour les centres de formation. Hein.
Oui, au club en fonction du classement aussi.
Oui,
hein.
Oui, bien sûr.
Oui, et puis, alors que moi, je l'aurais fait en sens inverse.
Oui, c'est-à-dire?
J'aurais donné davantage aux derniers, parce que ce sont eux qui ont plus de difficultés, qui ont moins d'argent,
ouais, moins de moyens,
que de donner les plus grosses sommes aux premiers, aux deuxièmes, ainsi de suite.
Mm-hmm.
Je l'aurais donné en sens inverse. Mm-hmm. Et ces clubs-là, bon, c'est pas de leur faute s'ils sont derniers ou avant-derniers. Ils font un premier, ils font un dernier, hein, c'est comme ça. Mais j'aurais donné un peu plus dans le bas, de façon à ce que ces clubs-là puissent aussi avantager leur formation et pouvoir refaire leur terrain, parce que c'est vrai qu'il y a des terrains qui sont dans des états abominables, et un petit peu remettre le club en état, quoi.
Oui, puis ça peut-être inciter certains à aller un peu plus à nouveau au stade.
Oui, voilà, aussi. Hein,
à condition d'accueillir les gens, effectivement, et de ne pas faire des prix trop onéreux.
Trop onéreux, c'est vrai.
Très bien. Ben, Juliette, merci en tout cas, hein, de nous avoir tenu informés du match d'hier entre Paris Saint-Germain et puis
Le Mans.
Bonne chance pour la semaine prochaine du côté de Marseille. Hein.
Ok, merci beaucoup, hein, et puis bonne chance à vous.
Ouais, merci Juliette.
Allez,
hein. Et encore merci pour la Martinique. Hein.
Allez la Martinique. Oui.
Allez, salut, merci, voilà.
Allez, au revoir.
Voilà donc pour cette émission ce matin, où on a eu des invités au téléphone, Juliette Trouvel, hein, pour bien... Une petite analyse du match d'hier et puis notre ami Pierre Cangioni. Voilà, et ben on vous laisse avec Lionel. La semaine prochaine, c'est un Tribune Sport 9h-11h qui vous sera présenté en direct du semi-marathon de Bullion. Et puis on parle également de la Coupe du Monde des Scrims de Sabre. Sois Dourdan. Bon dimanche, bonne semaine. Vive le sport, vive le foot. Lionel pour Radio Village dans quelques instants.